Frères et sœurs, chers amis, le peuple d'Israël en plein désert risquait de mourir de faim. Hommes et femmes s'en prirent alors à Moïse et à son frère Aaron. Tout cela est de votre faute. Vous l'avez fait exprès de nous conduire dans ce désert pour nous y faire tous mourir. Ainsi, toute la joie d'avoir échappé aux Égyptiens qui les poursuivaient, la voici disparue. Et de même, le bonheur de la liberté arraché à leurs oppresseurs. Pire encore, ils ont oublié la puissante action du Seigneur en leur faveur pour ne plus se souvenir que du temps où ils étaient esclaves, certes, mais quand nous étions assis près des marmites de viande et mangeons du pain à satiété, oui, du pain à satiété, et que leur concédaient leurs maîtres et seigneurs, les Égyptiens, en contrepartie des corvées quotidiennes et des passeports confisqués. Le don de la manne arrive alors comme une initiative du Seigneur lui-même, créateur et maître de la nature, un phénomène physique se produisant avec la rosée, mystérieux non seulement en soi, manou, qu'est-ce que c'est ? Kézako ? Car il conserve son secret de fabrication, mais en ce qu'il est un cadeau totalement gratuit de Dieu, sans contrepartie ouvertement exigée par lui de son peuple. Et il y a là bien plus qu'un miracle, une expérience concrète, matériel, physique même, de la présence de celui qui est le créateur de la matière. C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger, explique Moïse. Jusque-là, le pain des fils et filles d'Israël, ils le fabriquaient eux-mêmes, grâce à leur savoir-faire et leurs économies accumulées pour s'acheter la farine et l'eau. Mais voici comme un temps nouveau qui s'ouvre pour eux tous, du moins pour tout ce temps provisoire où ils seront en plein désert, donc sans aucune ressource habituelle pour trouver, pétrir la farine, cuire du pain comme les autres peuples de la terre. Nous serions portés, nous autres chrétiens, à considérer cet épisode de la manne comme un événement qui ne nous concerne pas, parce qu'il a eu lieu bien avant l'incarnation du Fils de Dieu et que l'événement Jésus, au cœur de notre foi, dépasse de loin et rend caduque tous ceux qui ont précédé dans la longue histoire du peuple juif. Et pourtant, la page d'Évangile qui vient d'être proclamée a attiré à elle cette scène issue du livre de l'Exode. Une foule venait d'être rassasiée grâce à un miracle de multiplication de pain, miracle obtenu de Dieu par la prière de Jésus de Nazareth. La même foule se met alors à la recherche de l'homme providentiel, ce qui fait dire à celui-ci, quand elle l'a retrouvé, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasié. » Le même terme dans les deux récits, « assasiété, rassasié ». Et ici aussi, tout comme Moïse avait bien précisé à ses frères et sœurs, « c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger », le Christ Jésus le rappelle à ses auditeurs. « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. » Mais Jésus ne poursuit pas avec les mots mêmes de Moïse, car il ajoute, étonnamment, « c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. » Oui, étonnamment, et de trois façons, car Jésus passe sans transition au temps présent. Il vous donne. Il dit « mon Père » et il prêche à présent sur le vrai pain. Si nous ne sommes pas du tout dans la situation du peuple d'Israël qui risquait de mourir physiquement de faim et de soif dans un désert géographique qu'il traversait, avec le fragile espoir d'atteindre à terme le pays géographique ruisselant de lait et de miel que son Dieu lui promettait, nous courons quand même le risque de mourir de faim et de soif spirituelle, à force peut-être de nous habituer à l'Eucharistie, ou plus précisément à la communion eucharistique, sous quelque mode que ce soit que nous la recevions, par une forme de routine, oui, mais aussi, et c'est plus grave, en oubliant que le vrai pain est Jésus tout entier, qui veut se rendre présent partout, donc pas uniquement à la messe. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? La question est récurrente dans toute l'histoire de l'Église. Elle était ainsi au XIIIe siècle sur les lèvres d'un jeune homme d'Assise, Francesco. « Cosa vuoi che io faccia per te, Signore ?» En effet, rien de plus désespérant en soi pour un être humain que de se trouver désœuvré, privé d'œuvre, d'ouvrage, de travail, alors que c'est en faisant que l'homme se fait, mais plus encore, spirituellement parlant, en coopérant à l'œuvre divine elle-même. Or, Jésus renverse les perspectives. Ses interlocuteurs voudraient, d'une certaine façon, en faire plus pour être plus sûr de plaire au Seigneur. Et cela nous rappelle certainement cet autre homme, jeune ou pas, qui se jeta un jour aux pieds de Jésus et le supplia. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Eh bien, la réponse du Christ sera pour lui un peu comme pour la foule au bord du lac et pour chacun, chacune d'entre nous, cet appel ultime. Et puis, suis-moi. En parfait accord avec sa parole d'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu n'est pas un travail pour lequel il aurait besoin de bras supplémentaires. Elle est fondamentalement sa joie qui fait sa gloire. Et comme l'écrira magnifiquement l'évêque de Lyon, saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Or, à l'apôtre Philippe, qui lui demandait « Montre-nous le Père, et cela nous suffit », Jésus répond « Qui m'a vu, a vu le Père ». Ainsi, en déclarant à ses frères et sœurs juifs « Moi, je suis le pain de la vie », Jésus s'offre à tout être humain, dans le signe eucharistique par excellence, à sa table, ici et maintenant, mais signe double avec la table de sa parole et signe étendu à l'univers tout entier, à toute vie quotidienne. J'avais faim, moi qui suis le pain de la vie éternelle, et tu m'as donné à manger. Ainsi, de même, l'application de cet accueil du corps du Christ dans notre être tout entier, qui est corps, âme et esprit. Écoutons l'appel de l'auteur de la lettre aux Éphésiens. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien. Laissez-vous renouveler, revêtez-vous de l'homme nouveau. Car qui est l'homme nouveau, sinon celui qui était mort, qui est vivant et qui vient, comme le confesse saint Augustin, mon Dieu, l'humble Jésus. Alors, frères et sœurs, croyez bien ici que je m'adresse à moi-même également, en vous appelant, chers frères et sœurs dans le Christ, à nous laisser tous et toutes renouveler profondément, en particulier au moment de nous préparer à une communion eucharistique ou une démarche de désir de celle-ci. Prenons ou reprenons autant qu'il est possible davantage conscience de la force de ce dialogue. Le corps du Christ. Amen. Le Père Christian et moi avons tenu dans cet ensemble paroissial que j'aurai servi 2 ans à ce que, pandémie ou pas, soit maintenu et poursuivi ce dialogue interpersonnel de la communion eucharistique. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres paroisses de notre diocèse, ni dans celui de Paderborn, je le regrette. En effet, par là se poursuit le renouvellement de chacun et de chacune dans sa foi, en sorte que continue de se laisser construire le corps ecclésial tout entier. Amen.